Je voudrais aujourd'hui m'interroger sur la nature de l'Église ou sur la manière avec laquelle nous pouvons aujourd'hui essayer d'être fidèles dans le monde qui est le nôtre pour vivre et témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et pour cela, réfléchir à ce qui a pu faire en sorte que le christianisme connaissent ce développement extraordinaire au début, juste après la mort du Christ, pour devenir une religion planétaire. En effet, à la Pentecôte, vous le savez, on dit que ce temps marque habituellement le commencement de l'Église. En effet, 50 jours après la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, les disciples reçoivent l'énergie du Saint-Esprit et sont prêts à tout. Mais en fait, c'est souvent dit, mais c'est Paul qui va véritablement inventer le christianisme. Parce que Jésus n'a pas inventé de religion. Jésus n'a pas créé de religion, il n'a pas créé de rite ni d'organisation. Et une religion, ce n'est pas simplement un message. On peut dire que le christianisme a pris ce message de l'Évangile comme le cœur atomique de l'Église, mais ensuite ils en ont fait quelque chose qui permet qu'aujourd'hui nous soyons ici réunis pour en parler. Donc à la Pentecôte, les disciples ont un trésor, la prédication de l'Évangile, la prédication du Christ, et c'est encore notre trésor. Ils ont l'énergie, la puissance du Saint-Esprit en eux, et que vont-ils en faire? Et ça, eh bien, je vous l'ai dit, c'est Paul qui va avoir des intuitions géniales et qui va réussir à faire en sorte que l'Église chrétienne existe. En effet, il faut se replacer dans la situation dans laquelle arrive, je dirais, le début de l'Église chrétienne. Avant la destruction du Temple de Jérusalem en 70, le judaïsme était un succès considérable. Il était développé dans tout le bassin méditerranéen. Et il y avait énormément de gens qui fréquentaient les synagogues, juifs ou pas d'ailleurs. Il y avait aussi beaucoup de païens, qu'on appelait les hellénistes ou les craignants Dieu, qui suivaient le judaïsme, même sans être juifs. Et puis il y a eu la destruction du temple de Jérusalem en 70, et l'avènement de l'Empire romain avec des mentalités nouvelles. Et là, en fait, il y a eu une situation de crise extrêmement compliquée dans laquelle il a bien fallu que le judaïsme s'adapte. Et cette situation de crise, de mutation considérable de la société dans l'Antiquité a permis, je crois, la naissance du christianisme, parce que ça, je l'ai appris en écoutant ce que dit Darwin, qui n'évolue pas meurt. Et c'est vrai qu'évoluer est évidemment vital et essentiel pour une religion comme pour tout être vivant. Et par ailleurs, les crises et les mutations ont toujours été, aussi bien pour tout vivant que pour les religions en général, à la fois des dangers mortels, c'est-à-dire quand la société évolue trop vite ou s'il y a une crise importante, le vivant ou la religion peut disparaître, ont été aussi à chaque fois des opportunités que quelque chose de neuf surgisse. Et on peut dire que dans toute l'histoire des religions, chaque fois qu'une religion nouvelle a pu surgir pour s'imposer, ça a été dans une situation soit de crise, soit de mutation importante. Le christianisme est né, je vous l'ai dit, dans cette situation de crise du judaïsme, et dans l'émergence de l'Empire romain, qui a été franchement quelque chose de considérable. Et ensuite, on peut dire que la réforme est née aussi dans cette mutation étonnante qu'est celle de la Renaissance. La réforme est fille de la Renaissance, d'un changement total des mentalités, de tant de choses et aussi de technologies, avec l'apparition du livre, de l'imprimerie, la redécouverte des textes antiques. Et à chaque fois, ça a permis la naissance d'une religion nouvelle, d'un monde nouveau et la disparition d'un monde ancien. Et ce qui me fait réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes finalement également dans une situation extrêmement compliquée. D'abord, de mutations considérables. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a à peu près rien à voir avec celui qui existait l'année de naissance de mon père, il y a 100 ans. Rien à voir. Et même il y a 50 ans, 1974, le monde n'avait rien à voir avec celui qu'il est aujourd'hui. Il y a des changements radicaux de société, de mentalité, et également de technologie, de communication. L'ère, évidemment, d'Internet et d'autres choses a bouleversé le monde et continue de le bouleverser. Et donc, on est dans une situation de mutation considérable. Et je crois qu'il y a là un virage à ne pas manquer. Faute de se retrouver comme une voiture allant trop vite dans les bottes de paille et de terminer la course sans se rendre compte de rien. Et donc, vous disais-je, si on reprend l'exemple du judaïsme, le judaïsme s'est trouvé confronté à la destruction de son temple de Jérusalem en 70, et avec cet empire romain qui est arrivé avec des idées nouvelles, des mentalités nouvelles. Et là, dans ce judaïsme, il y a eu deux voies différentes qui se sont exprimées pour essayer de se réinventer. La première, ça a été le repli identitaire, qui a été marqué par ceux qu'on voit dans l'Évangile comme étant les pharisiens, qui disaient « ça n'est pas grave, on n'a plus le temple, mais ça fait rien, on se recentre sur la pratique, sur la loi, sur une judéité encore plus étroite et encore plus pratiquante et plus formelle. » Ce repli identitaire des pharisiens n'a pas été un échec total. Ça a fonctionné, hein. Il y a encore aujourd'hui des juifs traditionalistes, donc ça n'a pas été un échec total, mais d'une certaine manière, ça n'a pas non plus été un triomphe. Le judaïsme, par rapport à la situation de développement dans tout le bassin méditerranéen considérable qu'il avait, c'est plutôt réduit, recroquevillé sur lui-même. Et puis il y a eu l'autre voie qui a été celle de Paul en particulier et des premiers chrétiens, qui a été l'ouverture et l'adaptation au monde ambiant. C'est-à-dire que Paul a eu, volontairement ou sans y réfléchir, je ne sais pas, le génie de reprendre le judaïsme et de l'adapter avec souplesse au monde romain et à la culture nouvelle. Et pour ça, il a réussi à ôter du judaïsme tout ce qui faisait un obstacle insurmontable par rapport à l'Empire romain et permettant l'accès des païens dans une religion qui, fondamentalement, dans laquelle il était fondamentalement très difficile d'entrer. Je ne dirais qu'un exemple, c'est celui de la circoncision. Vous savez que les premiers chrétiens était juif, en fait, et donc se faisait circoncire. La circoncision, pour l'Empire romain, c'était un véritable problème. Les Romains ne pouvaient pas envisager de se faire circoncire. On était encore dans la culture grecque, vous savez, des gymnases où l'on combattait nu, et un homme circoncis dans l'Empire romain, c'était une infamie, c'était pas possible. Donc c'était un obstacle. Et Paul, très astucieusement, va se dire que finalement l'important, c'est le message, et qu'après tout, la forme est purement extérieure. Et donc il va adapter ce judaïsme dont il hérite, ce judéo-christianisme, aux païens, en disant « écoutez, on peut négocier ça, en quelque sorte ». Il va simplifier la religion en disant, comme on l'a lu d'ailleurs tout à l'heure dans Romains 12, nous avons écouté, la circoncision, en fait, c'est pas très grave. L'important, c'est la circoncision du cœur. Et donc, si vous n'êtes pas circoncis physiquement, aucune importance. On peut très bien être chrétien sans être circoncis. L'important, c'est la disposition du cœur. On n'imagine pas, mais c'est une révolution considérable d'avoir lâché un élément de tradition du judéo-christianisme en essayant de garder l'essentiel du message et en laissant de côté quelque chose qui était un obstacle pour la société dans laquelle il parlait. Et je pense, vous disais-je, que c'est extrêmement important pour nous parce que, je vous l'ai dit, notre société aujourd'hui a vécu ou vit des mutations considérables, de révolutions intellectuelles, culturelles, sociétales et techniques. Et finalement, comme Paul, aujourd'hui nous héritons d'une religion entre nous du XIXe siècle. Nous sommes très fiers de fêter là les 150 ans de l'Église, de l'Étoile, mais en fait, nous héritons d'un christianisme du XIXe siècle. Et catholicisme comme christianisme, nous lorgnons sur ce qu'était notre chrétienté au XIXe, en disant « Ah, c'était le bon temps, à l'époque, les gens étaient pratiquants, ils allaient à l'église, ils croyaient, etc. » Et en fait, que faisons-nous de cet héritage? Voyez-vous, que faisons-nous de cet héritage? Et je pense que, comment allons-nous trouver une issue pour justement permettre à cet héritage fondamental qui finalement réside dans le message plus que dans la forme, pour faire en sorte que le christianisme du XIXe siècle dont nous sommes les héritiers devienne la religion du XXIe siècle. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, à propos de l'évolution du judaïsme, il y a deux hypothèses. Et ces deux hypothèses donnent aujourd'hui deux types d'églises qui fonctionnent bien. Il y a celle du repli identitaire, qui correspondent pour moi, je dirais à l'époque, aux pharisiens auxquels s'opposait Jésus, et aujourd'hui, ça correspond à la tendance, je dirais chez les catholiques, des traditionalistes. Ça fonctionne, on trouve des clients pour ça, hein, des gens qui veulent dire la messe de Saint-Pie V comme au XIXe siècle, sans rien changer. Et chez les protestants, on pourrait dire que c'est certaines églises évangéliques qui, sous des aspects modernes, en fait, prêchent une théologie d'avant la révolution scientifique. C'est-à-dire que souvent, la prédication évangélique est théologiquement extrêmement rétrograde et très classique, si vous voulez. Alors, cette solution traditionnaliste, je dirais, trouvera toujours des volontaires, mais je pense que ça n'est pas la solution et qu'elle restera toujours marginale. Et donc, les traditionalistes catholiques ne sauveront pas le catholicisme et une théologie éculée ne sauvera pas le protestantisme. Bon, il y en aura toujours, de même qu'on trouve encore aujourd'hui des juifs qui portent des tzitzit sur leur chemise et qui pratiquent d'une façon très, très orthodoxe, mais bon, ouais, ça restera, à mon avis, toujours marginal. Parce que je crois qu'on ne peut pas, en fait, vraiment, aujourd'hui, proposer une religion qui se coupe de la culture et du monde moderne dans lequel on se trouve. Et donc la deuxième solution, qui est celle qui, moi, m'enthousiasme, c'est de dire, comme Paul l'a fait en son temps, comment pouvons-nous nous ouvrir à la culture actuelle, et pour nous aujourd'hui à la culture moderne, et comment pouvons-nous réinterpréter notre Église pour qu'elle puisse être reçue par nos contemporains, tout simplement. Et ça, ce n'est pas que formel. Ce n'est pas que formel. Et je pense que, justement, l'erreur de certaines églises aujourd'hui, même au sein de notre Église unie, pense que pour être moderne, il faut avoir une forme moderne. Donc on enlève l'orgue, on met des guitares électriques, et le pasteur ne met pas une robe du XVIe siècle, mais va prêcher d'une façon sympathique avec un micro à la Star Trek et en souriant avec à l'américaine. Je pense que la forme n'est peut-être pas finalement le plus essentiel. il y a là un enjeu fondamental dans le contenu. Parce que Paul lui-même, je dirais, a même réadapté le message de l'Église chrétienne pour qu'il soit recevable par ses contemporains du bassin méditerranéen. Je vous donnerai un seul exemple. La résurrection des morts, ça a été vraiment le message de base d'abord du Christ ressuscité et ensuite de l'Église naissante qui professait, à la suite du judaïsme pharisien d'ailleurs, la foi dans la résurrection des morts. La résurrection des morts, là encore, dans la pensée grecque et latine, franchement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les Romains, les philosophes grecs et romains étaient incapables d'accepter une pensée pareille. Et Paul a eu l'intelligence de spiritualiser le message. Et on le lit dans 1 Corinthiens 15, vous savez, tout ce grand chapitre de Paul sur la résurrection, où justement, devant l'opposition des chrétiens de l'église de Rome ou de Corinthe, qui disent « mais on ne peut pas croire à votre histoire de résurrection des morts ». Et Paul va la spiritualiser, il va la réinterpréter en disant « écoutez, vous n'êtes pas obligé de croire qu'on va se relever comme ça, bonjour, du jour au lendemain pour revivre dans un autre monde semblable au nôtre. » Et il va faire tout ce chapitre pour dire « on est semé corps matériel, mais on ressuscite corps spirituel et la résurrection n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici sur terre. C'est autre chose. On est dans le domaine de l'éternel, de l'invisible et du spirituel. » Et du coup, spiritualisant cette foi essentielle dans la résurrection, Paul va rendre le message chrétien romano-compatible. Tout à coup, ça devient possible pour les Romains de croire dans ce message de la résurrection et pour ceux nourris de la philosophie grecque aussi, parce que finalement, ça va se rapprocher de ce qu'ils connaissent, qui est la foi dans l'éternité de l'âme, en quelque sorte. Donc, tout à coup, le message va être possible d'être reçu. Et tout le travail des premiers chrétiens va aller également dans ce sens. Le passage de l'hébreu ou de l'araméen au grec, mais c'est une révolution considérable, parce que tout à coup, on n'est plus une religion juive, on devient une religion, j'allais dire, moderne. Et quand l'évangile de Jean commence en disant, en grec en tout cas, bon, à l'origine je ne sais pas, mais tel qu'il a été diffusé, enarkin, au logos, au commencement était le logos, au commencement était le verbe, bien sûr on l'interprète, nous, dans la tradition juive, mais un grec qui entend logos, ou un romain, qui a été nourri de la philosophie stoïcienne, il dit ça, je comprends. Et donc tout l'évangile de Jean a pu être relu dans des catégories stoïciennes qui étaient celles fondamentalement qui nourrissaient les auditeurs de Paul. Et je pense que ça a permis finalement à cette pensée chrétienne finalement de pouvoir se diffuser. Alors aujourd'hui, vous disais-je, ça me travaille beaucoup parce que je me dis, est-ce que nous ne sommes pas dans un défi semblable? Et comment est-ce que nous pouvons arriver à trouver l'essence même de ce message de l'Évangile et faire en sorte qu'il soit audible par nos contemporains et par rapport au monde moderne? C'est ce que j'essaye de faire sans arrêt, de dire comment on peut dire aujourd'hui le message du Christ. C'est ce que j'ai fait dans mon livre que j'ai appelé « Un christianisme pour le 21e siècle » avec la tentative de redire tous ces éléments de la foi chrétienne en n'utilisant jamais les mots du patois du 19e siècle qui sont des mots qu'on n'entend que dans les églises et qui ne veulent rien dire à nos contemporains qui n'ont pas nécessairement suivi des années de catéchisme. Et donc pour ça, il faut se poser la question, je crois, de savoir notre société contemporaine aujourd'hui, quelles sont ses caractéristiques. C'est-à-dire comment fonctionne aujourd'hui notre esprit moderne, ici en Europe, en Occident, hein, en Afrique, en Amérique du Sud, en Inde, en Chine, au Japon, en Corée, c'est autre chose. Et je crois, moi, mais je vous l'ai dit, c'est une confession de foi, hein, aujourd'hui je ne donne pas de solution, je vous dis simplement où m'amène ma réflexion. Je pense que d'abord, notre société aujourd'hui contemporaine, elle est dominée par deux choses. La première, c'est une vision rationnelle du monde. Je crois que notre culture aujourd'hui, finalement, est héritière de Descartes et des philosophes des Lumières. C'est-à-dire que nous croyons, à tort ou à raison, dans l'intelligence et dans la raison. Et également, nous croyons, enfin en tout cas moi je crois, et ceux auxquels je veux m'adresser croient, parce qu'il y a des gens qui ont un esprit irrationnel, beaucoup de nos contemporains pensent que la science aujourd'hui est vraie. Pas qu'elle dise tout, mais que globalement, la science aujourd'hui décrit d'une façon adéquate, relativement adéquate, et plutôt bien, le fonctionnement du monde physique. Et même, je dirais même au-delà, qu'aujourd'hui nous connaissons aussi, et nous croyons que nous connaissons aussi les modes de fonctionnement psychique, si vous voulez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut savoir quel temps il fera demain, on regarde la météo sur son téléphone et on ne va pas voir le pasteur ou le prêtre pour lui demander de prier pour qu'il fasse beau. Quand un couple est stérile ou n'a pas d'enfant, ils vont voir des médecins spécialisés dans la question et pensent que la fécondité d'un couple dépend plus de problèmes médicaux, voire psychologiques, que d'un dieu qui donnerait ou non la fécondité à son épouse. Donc nous croyons que dans le fond, le monde fonctionne selon des lois que la science décrit plutôt bien. Donc nous sommes, je crois, dans un monde finalement scientifique. Et que quand on demande dans les églises, nous, il n'y a pas de raison majeure de leur demander de renoncer à, ni à leur bon sens, ni à leur raison, ni à la vision scientifique du monde. Et que par conséquent, nous devons parvenir à trouver comment ce message de l'Évangile peut être raisonnable, rationnel et scientifico-compatible. Voilà. Sinon, je pense que ça va être très compliqué. L'autre caractéristique de notre société, plus complexe, mais je crois très importante et qui, pour moi, explique beaucoup de choses, c'est que nos contemporains vivent bien. Bon, nos contemporains ici en France, hein, le monde moderne n'est pas une horreur, honnêtement. Nous n'avons pas peur pour notre vie. Nous avons un toit, nous avons de quoi manger, nous avons des loisirs, enfin, tout est fait pour que globalement, notre vie n'est pas effroyable. Et donc, beaucoup de nos contemporains peuvent très bien se contenter de leur existence humaine, terrestre et sociale. Pourquoi c'est important? Parce que, pendant la guerre de 14, il y a un proverbe qui avait été donné, je ne sais pas qui avait lancé ça, qui disait « Il n'y a pas d'athée dans les tranchées ». C'est-à-dire que dès qu'on est dans une situation d'angoisse, de danger, de souffrance, la religion a quelque chose à dire, souvent de l'ordre de la fuite d'ailleurs, en disant « Ne vous en faites pas, il y aura un paradis, alors là ça va être formidable et vous serez... » Ou alors là, ça va être la paix, ça va être la tranquillité. Ou alors que la religion permet de compenser une situation terrestre terrible en poussant les gens vers un monde, j'allais dire imaginaire, c'est pas bien, mais dans un monde spirituel qui finalement est beaucoup plus attractif et qui leur permet de conserver l'espoir ou l'espérance. Et je pense qu'une partie de la déspiritualisation de notre société, c'est qu'aujourd'hui, les contemporains, la plupart n'ont pas du tout besoin de s'enfuir dans un monde spirituel ou imaginaire pour vivre bien. Donc on souffre d'être dans une société qui ne souffre pas. Alors, du coup, ce n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde. Il y a quand même des gens en difficulté aujourd'hui, qui sont, vous le remarquerez, la cible première de nos prédicateurs évangéliques, qui effectivement vont aller en particulier toucher, par exemple, les populations immigrées, déracinées de chez elles, donc en situation de fragilité et de souffrance. Et les prédications évangéliques, souvent, pas toutes, mais beaucoup, qui vont cibler particulièrement les gens en difficulté psychologique, en fragilité pour des questions de dépendance ou de chômage ou des situations familiales complexes. Et ces gens-là sont les cibles premières de ce message chrétien simpliste qui va dire « Votre vie est une horreur, donnez votre vie à Jésus-Christ et tout ira bien ». Ça explique entre nous aussi le succès de ces méga-church, ces églises évangéliques qu'il y a en Amérique du Sud, qui au Brésil ou ailleurs, qui arrivent à convertir des milliers de personnes en leur faisant miroiter autre chose que leur situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent. Mais si on ne veut pas jouer ce jeu-là, et qu'on se dit, moi, je veux parler aux gens, j'allais dire, normaux, ce n'est pas le bon terme, mais aux gens qui ne sont pas nécessairement en grande souffrance, eh bien, du coup, est-ce que j'arrive à trouver de quelle manière l'Évangile va pouvoir intégrer une vie quotidienne non dramatique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, ma prédication ne va pas dire aux gens « Le monde matériel est mauvais, votre vie physique est une catastrophe, fuyez pour venir en Dieu et en Jésus-Christ », mais de dire « Votre vie, elle vous convient, vous êtes heureux dans la vie, très bien », et d'arriver à faire en sorte que cette vie-là, je l'assume dans une dimension spirituelle et je l'accueille dans une dimension spirituelle. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens et j'essaye, en tout cas moi, mais de montrer aux gens qui viennent de dire, mais vous savez, votre vie n'est pas un obstacle à la spiritualité et vous pouvez vous dire chrétien même avec ce que vous êtes aujourd'hui et que votre vie elle-même peut être accueillie comme telle. Mais c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que si on considère que votre vie est bonne, pourquoi vous allez vous déplacer le dimanche matin, rester au lit à faire la sieste? À un moment donné, il faut quand même que la spiritualité apporte une plus-value. Et donc la question, c'est en quoi est-ce que le message de l'Évangile va permettre d'apporter quelque chose de plus, même si ce n'est pas une fuite, à cette vie terrestre et matérielle que j'assume et que j'accepte. Et je pense que là, encore je regarde ce qu'ont fait les premiers chrétiens et je me dis qu'ils ont eu une intuition absolument géniale, c'est que les premiers chrétiens ont su, j'allais dire, réenchanter le monde matériel. Ils n'ont pas fui, mais ils l'ont réenchanté. C'est-à-dire ne pas le mettre à l'écart, mais l'intégrer dans la sphère même du religieux. Et on le voit déjà en balbutiement dans l'Église chrétienne avec les premières réunions qui étaient des églises de maison. Enfin, c'est incroyablement révolutionnaire aujourd'hui où un bon nombre de gens pensent que pour adorer Dieu il faut aller dans des lieux consacrés ou qu'il faut faire des pèlerinages ici ou là. L'Église chrétienne dit église de maison, vous pouvez adorer Dieu à 4 ou 5 chez vous. On réenchante le quotidien et votre vie quotidienne devient le temple du Seigneur. C'est incroyable comme idée. Ou encore, vous savez que les premières assemblées chrétiennes étaient sous forme de repas, je l'ai dit déjà, d'agape. C'est-à-dire qu'autrement dit, ils disaient, voilà, on mange et on boit ensemble, entre amis, et ça devient notre culte à Dieu. Réenchanter le quotidien et réenchanter ce que l'on vit ordinairement pour en faire quelque chose de spirituel qui s'élève à Dieu. Intégrer le quotidien dans la sphère du religieux. Et c'est également ce qu'a su faire la Réforme. La Réforme a également su faire ça. En abolissant la distinction entre acte religieux et acte profane, et en disant la meilleure manière que vous avez de louer Dieu, c'est dans votre travail quotidien, dans votre vie de tous les jours. Faites ce que vous avez à faire comme pour Dieu, pour la seule gloire de Dieu, et même le travail le plus humble et le plus modeste pourra devenir une prière à Dieu. Et ce qui fait que celui qui fait un travail imbécile toute la journée est répétitif, son travail imbécile et répétitif est réenchanté, spiritualisé et devient la plus belle des choses et la plus enthousiasmante. Alors c'est ce que je crois nous devons continuer à faire, bien sûr, c'est de montrer comment est-ce qu'on arrive à mettre le spirituel dans le quotidien. Mais néanmoins, vous me direz, ça ne suffit pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, une interrogation que j'ai et sur laquelle je n'ai pas de réponse directe, que j'ai trouvé dans ce livre dont je vous parlais de Dominique Desjeux, qui s'appelle « Le marché des dieux ». Il étudie comment certaines religions ont réussi à fonctionner correctement. Ce qu'il dit, ce qui m'interroge, c'est qu'une religion ne peut fonctionner, ne peut avoir du succès que si elle est efficace, c'est-à-dire si elle sert à quelque chose. Alors là, c'est compliqué parce que les premiers chrétiens, eux, ils ont très bien su fonctionner comme ça. Avec les miracles, bien sûr, les guérisons. Croyez, donnez votre vie à Jésus-Christ et vous serez guéri. Voilà, donc c'est très efficace, si vous voulez. Et cette prédication sur l'efficacité de la prière était une très bonne raison d'être croyant. Et si on regarde même comment le christianisme a pu s'établir, c'est, en tout cas pour moi, sur une méprise considérable sur le rôle de Dieu. Vous savez que Constantin, l'empereur, avait une épouse chrétienne et il était embringué dans une guerre, je ne sais pas laquelle, et sa femme a dit « Je vais prier pour que tu gagnes ». Et Constantin a dit « Écoute, si je gagne, je me convertis à ton Dieu chrétien ». L'épouse de Constantin prie, Constantin gagne la victoire et dit « Ton Dieu, il est formidable, je me convertis et je fais du christianisme la religion obligatoire pour tout l'Empire romain ». Efficacité de la religion. Bon, si vous y croyez, restez comme vous êtes, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, je n'y crois pas. Enfin, je n'y crois pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne crois pas que Dieu gère les victoires des guerres. Chacun prie de son côté. Est-ce que en 45, les Français ont prié plus fort que les Allemands, qui pourtant mettaient Gott mit uns sur leur ceinturon? Enfin, ça ne va pas, cette histoire. Bon, donc ça ne va pas, on n'y croit plus. Alors voilà, j'allais dire, la question que je pose aujourd'hui. Si on est dans un monde scientifique et que l'on croit que la plupart des processus naturels auxquels nous sommes soumis sont autonomes, c'est-à-dire que la météo, c'est pas Dieu qui le fait, le fait que vous ayez du travail ou du chômage, c'est pas Dieu qui gère, vos enfants, c'est pas Dieu qui gère, donc Dieu gère quoi? Puisque nous croyons dans la science. Si on ne croit plus au miracle, à quoi ça sert de croire en Dieu? Alors oui, vous pourrez me dire, oui, mais la religion, c'est bien, il y a des valeurs. Il y a des valeurs, des idéaux, et puis l'appartenance, c'est très bien, la culture, l'histoire. Ouais, ça va, mais si ça ne sert à rien, ça ne suffit pas. À quoi sert d'être chrétien aujourd'hui? Ce sera l'objet de ma prochaine prédication. Mais c'est vraiment, je crois que c'est trop important, mais j'ai pas le temps. C'est trop important. Mais il faudra qu'on en reparle parce que je crois que c'est essentiel. Mais en tout cas, je conserverai quand même tout ce que je vous ai dit sur la nécessité d'évoluer. Alors enfin, dernière question sur la question de la forme. Je l'ai déjà un petit peu évoqué. Est-ce que du coup, il faut tout réinventer? Est-ce qu'il faut que j'enlève ma robe et qu'on détruise le temple pour en faire une salle de visioconférence? Je ne suis pas sûr. Je pense que l'essentiel de la modernisation de la religion doit être dans le message. Enfin, pas dans le fondement du message, mais dans l'interprétation, la réinterprétation du message. C'est-à-dire que la prédication doit être résolument moderne. Quant à la forme, je ne suis pas sûr, je suis même sûr, qu'il ne faut pas tout jeter aux orties. Pourquoi ? Parce que ce serait une erreur de rompre avec toute forme de tradition. Évidemment qu'il faut que la religion soit la plus simple possible. Ça, c'est, je vous l'ai dit, c'est ce qu'a découvert Paul. Il faut enlever tous les problèmes, les complications, la plus simple possible, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille bazarder toute tradition. Pourquoi ? Parce que parmi les caractéristiques de notre époque, je vous en ai donné deux, il y en a une qui veut qu'aujourd'hui il y a un attachement particulier à la tradition, précisément, et que, dans le fond, nous n'aimons pas le changement. Ça, on le voit par, je dirais, notre siècle et celui de toute l'histoire de l'humanité qui s'est préoccupé plus que jamais des monuments historiques. Journée du patrimoine, succès colossal et national. Devoir de mémoire, on n'arrête pas dans les commémorations. Et le goût qu'ont nos enfants même pour le vintage. Sans compter, je parlais tout à l'heure des immigrés qui viennent en France. Ils se raccrochent à quoi ? À leur culture, à leur histoire, à leur tradition, à leur milieu historique d'origine. Et donc nous avons besoin d'avoir des racines, et ça, c'est comme ça. Et en fait, peut-être aussi parce que, dans le fond, et tout le monde, peut-être moi plus que d'autres, nous avons peur du changement. Et ça, c'est une angoisse colossale qui rôde dans notre société. Peur du changement climatique. Ouh là là, s'il fait 2 degrés de plus, où va le monde, ma pauvre dame ? Peur des changements sociétaux et les musulmans qui nous envahissent. Peur des changements politiques, peur de tout. Et donc, il y a fondamentalement enraciné en chacun de nous, je crois, une quête de l'immuable. Parce que nous sommes angoissés par l'avenir. La société, mais même moi-même. Je vais vieillir, tomber malade. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on a besoin, à un moment donné, de quelque chose qui stabilise le temps. Et tout ce qui stabilise le temps est infiniment rassurant. J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui est venu ici à l'Étoile, qui m'a dit « ça fait 40 ans que je ne suis pas venu ». Quelle émotion de voir que cette église n'a pas changé. Et elle m'a même dit, quelle émotion, en montant l'escalier, je retrouve la même odeur que j'avais quand je venais il y a 40 ans. Mais ça n'est pas rien, ça n'est pas rien, c'est pas du tout absurde, parce que on ne peut pas être sans arrêt dans un temps qui passe, qui détruit tout, où tout devient n'importe quoi, où tout passe et tout disparaît et tout réapparaît sans qu'on puisse rien maîtriser. Si tout est remis tout le temps en cause, l'avenir devient angoissant. Et donc il faut en même temps qu'il y ait une forme d'encre. Et c'est pourquoi la religion que je préconise est à la fois, j'allais dire, traditionnelle et ouverte. Elle est traditionnelle sur une certaine forme qui ne s'oppose pas à une vision contemporaine du monde, mais qui permet de cadrer et de restructurer. Elle est structurante, mais elle est contemporaine, parce qu'elle réinterprète le discours dans les catégories qui sont celles que nous pouvons entendre. Et ça, c'est essentiel. Voilà, enfin, pardonnez-moi tout cela, c'est juste pour dire une chose, c'est que la forme, les rites, les croyances même sont en fait secondaires, juste. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a au fond de tout cela un message, un trésor inestimable, qui est celui de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est du message de la croix. Bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Dieu, bonne nouvelle de la grâce, de la bonté infinie qui nous est donnée, qui nous reçoit, qui nous accueille, qui nous transforme. Et bonne nouvelle de la résurrection, qui est que ce Seigneur en qui nous mettons toute notre confiance a vaincu la mort et qu'il nous ouvre toutes les portes de l'espérance, de la paix, de la vie, de la joie et de l'amour. Reste à être capable de dire cela à nos contemporains. Et là, c'est un défi pour moi qui prêche, mais je crois pour nous tous. Et donc, je prie Dieu qu'il nous inspire autant que ces premiers chrétiens ont été inspirés, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'hériter de cette foi chrétienne qui est le plus beau trésor de l'humanité. Amen.